Je suis pas un grand gars de cinéma. Je suis allé, mettons que je compte ça vite fait, là, dans les 8-9 dernières années, je dois être allé au cinéma deux fois. La dernière fois, c'était il y a quoi, 4 ans, 3-4 ans pour le film de Machine Gun Kelly, Life in Pink, que ça s'appelait de mémoire. Et la fois d'avant, c'était pour aller voir Toy Story 4. Et là, vraisemblablement, je devrais effectuer mon grand retour au cinéma dans les prochaines heures, les prochains jours. D'ailleurs, je pars en semaine de vacances, fait que ça tombe bien. Parce qu'on a la sortie de Toy Story 5 et pour en parler, Éric de Pop Culture Québec. Salut mon ami.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. Toi, tu as eu la chance de le voir cette semaine, Toy Story 5. Première question, je veux une réponse courte. Est-ce que ça répond aux attentes?
Oui, tout à fait. C'est un très bon film.
Parce que l'histoire, la trame de tout ça, puis je trouve que c'est très brillant de l'amener comme ça. Là, c'est la façon, en fait, je pense, de le réinventer. C'est qu'on tourne autour d'un genre de combat des bons vieux jouets contre la technologie.
Exactement. On prend le thème quand même qui est d'actualité du temps d'écran chez les jeunes. Puis au Québec, littéralement, on en parle dans ces jours-ci dernièrement. Puis, pour faire une histoire courte avec le résumé d'histoire, c'est que les jouets, dans le fond, sont des jouets, des poupées de chiffon, comme on dit, les vieux jouets de Toy Story. Ben, il y a une tablette qui s'appelle Lilypad qui rentre chez Bonnie, qui est le nouveau personnage humain principal depuis quatrième film.
C'est ça, parce que dans le quatrième film, il y a comme ce changement-là qui se fait, qu'à un moment donné, c'est parce que ça fait longtemps, là, le Toy Story 1 qui était sorti. Il fallait que tu changes de personnage qui possédait les jouets. Là.
C'est ça. Avant, c'était Andy dans 1, 2, 3, puis c'est un peu ça le principe pour les gens de la génération des premiers Toy Story. On a grandi avec Andy, puis on a sorti les films aux 5 ou 10 ans, comme on dit, pour qu'on puisse grandir avec lui. Puis le troisième film faisait en sorte qu'il donnait ses jouets à Bonnie. Puis Bonnie, ben, joue encore avec ses jouets.
J'avais pleuré en passant au Toy Story 4. Là. Je me souviens, j'étais avec ma blonde de l'époque. On était au cinéma. Puis j'ai versé des larmes. J'étais un grand émotif, là. Je me souviens pas à quel... En fait, je me souviens même pas tant que ça de l'histoire de Toy Story 4, mais je me souviens que j'ai braillé.
Oui, c'est ça, la fin du 4. En fait, je l'ai vu il y a quelques jours aussi. Woody acceptait d'être un objet perdu au carnaval, puis il se séparait de Buzz
oui,
puis des
ça.
Autres. Mais heureusement, il revient okay. parce qu'il revient faire des petits caméos, comme on dit, là. Mais c'est ça, Bonnie reçoit la tablette, puis... Si on voit que ses amis, tout le monde a des tablettes, fait qu'il décide d'abandonner les jouets, puis les jouets sont un peu déçus, fait qu'ils tentent un peu de saboter la tablette pour reprendre la place dans le cœur de Bonnie.
J'ai hâte de voir comment ça va, parce que tu sais, j'ai vu des bandes-annonces, puis je trouve ça drôle, c'est la petite rivalité jouet contre tablette. J'ai hâte de voir comment on va faire évoluer ça. Tu sais, dans les bandes-annonces, je trouvais qu'il y avait du stock intéressant, mais là, c'est un film qui doit durer quoi, une heure et demie?
Une heure et demie pile, oui.
Fait que j'ai hâte de voir. Tu me dis que c'est pas décevant. Fait que...
Non, c'est pas décevant, mais ce que je trouve qui arrive avec Toy Story, c'est qu'on étire un peu comme la sauce.
Sûr.
Les trois premiers films, c'est comme la boucle est bouclée, Andy donne ses jouets à Bonnie, il grandit, il atteint un certain âge. Le quatrième, tu réouvres le livre encore, puis j'ai trouvé ça très bon, même si...
Mais c'est ça. Tant que c'est bien fait, puis c'est pour ça que là, je te posais la question d'entrée de jeu. Si tu me dis que c'est pas décevant, ben pourquoi pas? Puis à un moment donné, ils vont l'avoir, le film de trop. Parce que là, si c'est un succès, ils vont en refaire un film.
Oui,
mais,
100%.
Puis à un moment donné, ils vont l'avoir, le film de trop. Mais si tu me dis que ça serait pas lui, tant
non,
mieux.
Non, c'est pas lui. C'est toujours très bon. Puis tu sais, même un Toy Story qui est moins bon que les quatre derniers avant, ça reste un excellent film d'animation qu'on compare au reste du marché. Puis ça va être un succès, tu sais. Si ça va être un succès, c'est même pas une question. Ça va être le milliard de dollars assurés au box-office.
Allez-vous voir ça en fin de semaine ou dans les prochains jours, dans la prochaine semaine au cinéma? 88-971-1021 Toy Story 5. Ça sort aujourd'hui?
Ça sort aujourd'hui.
Bon,
tant
good. Bon, maintenant, on fait un petit tour des différentes sorties des films, des séries sur les réseaux de streaming. Tu veux me parler d'un film sur Netflix? J'en ai entendu parler, puis hier... j'ai rouvert mon Netflix pour la première fois en plusieurs semaines, puis j'ai failli cliquer dessus oui. avant de voir quelque chose que je te reparle dans les prochaines secondes. Mais c'est ça, Maternal Instinct.
Ouais, c'est un phénomène actuellement, puis je connaissais pas ça. T'sais, trois personnes m'ont contacté samedi dernier pour dire hey, « As-tu vu Maternal Instinct? » J'avais aucune idée c'était quoi. Non. Fait que là, je décide d'aller voir sur Netflix. C'est un film documentaire qui présente une histoire vraie. Puis comment que c'est amené, c'est très bon. Les premières minutes du documentaire, c'est une femme qui se fait arrêter sur le bord de la rue, puis elle a un enfant sur elle avec le cordon ombilical qui dépasse, puis elle a du sang sur elle. Et il demande qu'est-ce qui s'est passé. Ben, j'ai accouché dans voiture, faut que j'aille à l'hôpital, faut appeler mon mari. Il se pose pas de questions. Il la met dans l'ambulance, puis rendu à l'hôpital, le médecin se rend compte qu'elle a, physiquement, elle a jamais accouché.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, le policier demande, ben, l'enfant vient d'eux, puis ça coupe là, puis on retourne 14 mois plus tôt pour raconter toute l'histoire, puis ce qui arrive, c'est comme des twists après des twists.
Non, c'est ça. Ça a l'air que t'es jamais prêt à la prochaine twist. Là.
C'est ça. Puis c'est hors de mon imagination ce qui a pu se passer. Tu peux même pas deviner. C'est un bon documentaire, mais c'est une meilleure histoire encore. Là.
Maternal Instinct sur Netflix, un film. Sur Apple TV, une nouvelle série du nom de Widow's Bay.
C'est une nouvelle série, oui. C'est vraiment la série de l'heure sur n'importe quelle plateforme. C'est Widow's Bay. Puis au Québec, c'est qu'on n'est pas vraiment en phase avec Apple TV parce qu'ils font pas de pub ici. Fait que, mais on en parle partout sur Internet. Puis j'ai découvert le mois dernier. C'est une série surnaturelle, slash d'horreur, slash comédie. C'est vraiment spécial. Il n'y a rien qui se fait sur le marché actuellement. Puis pour faire un court résumé, c'est le maire de Widow's Bay, dans le fond, le nom, la baie de la veuve en français. Lui, il essaie d'attirer des gens sur son île pour faire marcher le tourisme, pour améliorer l'économie de la région. Puis il se rend compte qu'il y a des phénomènes paranormaux qui se passent en plein pendant la saison touristique. Par phénomène paranormaux, c'est soit du brouillard qui apparaît de façon très suspecte, très, très épais. Il y a quelques monstres qui apparaissent aussi, des personnes qui agissent de façon bizarre. Puis il doit naviguer dans tout ça avec certains de ses collègues. Puis ça prend des tournures que c'est assez dramatique. Mais malgré le ton qui est très dark de la série, il y a tout le temps une façon de rendre ça drôle. Puis c'est ça qui fait la force, parce qu'habituellement, c'est une série d'horreur ou un film d'horreur, c'est d'horreur, that's it. Mais là, on va vraiment piger dans la comédie.
Nice.
Ça fonctionne, c'est drôle. Puis l'horreur, c'est pas une horreur de style jumpscare, mais c'est assez pour qu'on soit vraiment attiré et qu'on regarde les 10 épisodes d'un coup.
Il y a une couple de films là, en rafale qui s'en viennent aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Ben c'est ça. Depuis mai, la saison, comme c'est on parti, dit, là. Des films est commencée, le summer blockbuster, comme on dit. Fait que dans les prochaines semaines, on a deux gros films, surtout en juillet, là, qui est le gros mois. Il y a Supergirl qui s'en vient lundi, mais il y a surtout The Odyssey à la mi-juillet, qui est le prochain film de Christopher Nolan. Puis à chaque fois que Christopher Nolan sort un film, il faut aller le voir. Puis surtout, il faut aller le voir en IMAX, parce que tous ces films depuis The Dark Knight sont filmés dans ce format-là. Puis The Odyssey, c'est un livre, en fait, un poème d'Homère qui date de plusieurs centaines, milliers d'années, où Odyssée, qui est le personnage principal, doit retourner chez lui après la guerre de Troie. Puis le film, qui va durer 2h40, et son expédition sur 10 ans vers chez lui pour trouver sa femme Pénélope. Puis dans cette expédition-là, il rencontre des phénomènes paranormaux, mais aussi des monstres. Fait que c'est très mythologique grec. Puis c'est très attendu parce que, encore une fois, Christopher Nolan fait juste des excellents films.
Spider-Man, ça sort quand, ça?
Ça sort le 31 juillet. Puis ça, c'est le film qui va faire le plus d'argent cet été, selon moi, parce que Spider-Man, c'est une licence qui est extrêmement populaire. C'est super-héros.
Plus que Toy Story?
Plus que Toy Story, je suis sûr. J'ai vu les préventes là, à date, juste à Québec, puis c'est presque plein pour les premières dates. Puis c'est la suite de Spider-Man No Way Home qui avait connu un énorme succès, même en étant un film de 2021 en pandémie. Puis dans celui-là, Peter, tout le monde l'a oublié à cause que Doctor Strange a fait en sorte que tout le monde l'oublie. Puis il va retrouver ses amis pour essayer qu'il se rappelle de lui pour former comme une nouvelle connexion. Mais évidemment, il va y avoir des méchants là-dedans. On sait déjà qu'il y a Scorpion qui va apparaître, qui fait longtemps qu'on a vu. Puis il y a des phénomènes qui vont... Il va peut-être se changer en araignée, comme on a vu dans la dernière bande-annonce. Fait que c'est des trucs, des comics que tout le monde attend, qu'on va peut-être voir finalement dans ce film-là.
Éric de Pop Culture Québec, t'as fini ta chronique, c'est mon tour. As-tu écouté la saison 1 de A Good Girl's Guide to Murder, meurtre mode d'emploi sur Netflix?
Pas du tout.
Ça, c'est sorti il y a un bout. Puis quand je te dis qu'hier, je me promenais sur Netflix, puis je suis tombé sur quelque chose que j'ai comme fait « wow ». Tu sais, quand t'as adoré une série, puis là, t'en perds un peu de vue, puis à un moment donné, tu retombes sur la saison 2, mais par hasard, t'as même pas eu le temps de t'ennuyer, que tu l'avais un peu oublié, puis tu vois, ta parole, il me semble que j'avais trippé là-dessus, puis là, tu te remémores, puis oui, la saison 2 de Meurtre mode d'emploi, A Good Girl's Guide to Murder, qui est sortie, j'imagine, dans les derniers jours, là. Moi, je suis tombé dessus hier, vraiment une bonne histoire de film, puis quand la saison 1 finit, tu dis « Ouais, ça va être tough de faire une saison 2. » Puis là, quand tu vois qu'ils ont fait une saison 2, tu te dis « Ah, ça va être mauvais. » Tu sais, ils vont avoir forcé les choses, ils vont avoir... C'est une série un peu adolescente, là, puis moi, je m'en cache pas, j'aime les séries un peu. La première série tourne autour d'une histoire de meurtre, que là, t'as une petite fille, elle s'appelle Pipe, qui décide que elle, pour un projet d'école, elle va aller au bout des choses, de l'enquête de ce meurtre-là, parce que les autorités font pas leur foutu job. Fait qu'elle, elle part là-dedans, puis... Là, ben, tu te ramasses dans des histoires, il y en a qui veulent pas qu'elle fouille. Fait que là, des histoires de menaces contre elle. Puis là, tu te lances sur plein de pistes. Puis c'est souvent ça, les histoires comme ça. Ce qui est le fun quand tu regardes, c'est que toi aussi, tu essaies de catcher des affaires puis de trouver c'est qui le meurtrier. Les twists sont malades. La twist finale est incroyable dans la saison 1 de A Good Girl's Guide to Murder, meurtre mode d'emploi. Puis là, dans saison 2, ben on repart complètement sur autre chose. Fait que c'est ce qui permet de continuer l'histoire. C'est que oui, t'as encore plein de flashbacks de la saison 1, puis t'as des affaires qui sont liées, mais tu repasses une nouvelle histoire. Fait que vraiment, j'ai tombé dessus à 16h. J'ai checké ça en boucle jusqu'à 21h. Fait que je dois même pas m'en rester tant que ça à checker de la nouvelle saison. Là. Fait que c'est le petit devoir que je te donne, Eric.
Ben, je vais regarder ça, ça a l'air intéressant.
J'ai aussi vu hier la. Tant qu'à t'avoir, la. As-tu été un fan d'Outer Banks?
Non, mais j'ai vu que le poster avait sorti.
Oui, puis moi, Outer Banks, ça a été une de mes top séries. Là.
Ça, c'est une série adolescente. Là.
Oui, aussi. Okay, oui, je sais. Merci de le rappeler. Mais hier, j'ai vu le premier trailer de la saison finale de Outer Banks. Puis j'ai pogné out. Puis là, il faut que j'attende au 20 août, je crois. Fait que,
c'est ça que j'ai jamais essayé, mais c'est tellement populaire qu'on dirait que j'ai peut-être pas le choix de commencer.
Mais commence avec A Good Girl's Guide to Murder. Puis saison 1 et 2, tu vas voir, ça se fait super bien. Tu en reparleras. Éric de Pop Culture Québec, allez le suivre sur les réseaux sociaux. Moi, pour me tenir au courant un peu de ce qui sort au cinéma, puis en streaming, puis tout ça, là, pas mal dans mes tops. Merci, Éric.
Merci. Le Point Max.